Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et avant d'attaquer avec Régis Le Sommier, on commence déjà sur ce sujet de l'affaire Epstein avec David Engels. Donc bonjour et merci d'être avec nous.
Oui, avec plaisir.
Alors l'affaire Epstein qui agite les esprits partout aux États-Unis et en Europe, que pensez-vous de cette histoire glaçante qui semble donner raison à toutes les théories de conspiration inimaginables, David Engels?
Eh bien, on dit souvent « tout a été déjà dit, mais pas encore par moi ». Donc voilà, un dicton d'intellectuel public qui est aussi triste que correct. Et j'espère que les auditeurs et spectateurs nous pardonneront de vouloir, moi aussi, ajouter mon grain de sel à un débat omniprésent, mais mon risque de répéter certaines évidences. Alors, aucun besoin de revenir sur les faits. Tout le monde a compris que ce qui était en jeu n'était pas seulement une sordide affaire de prostitution ou de pédophilie, mais un réseau d'influence où tout était à vendre et à acheter, depuis des rendez-vous à la Maison-Blanche et des contacts privilégiés avec des personnages influents, par des tuyaux internes permettant de gagner une fortune en bourse, jusqu'à des partouzes offrant la possibilité de vivre en toute impunité divers fantasmes de sexualité déviante et hautement illégale. Mais si l'on regarde de près tous ces textes des Epstein Files, toute une série de mythes ont été sérieusement ébranlés. D'abord, l'idée que ce réseau était essentiellement un genre de piège destiné à pousser des hommes influents à des actes ou situations permettant ensuite de les mettre sous pression. Bien évidemment, la participation à bon nombre des activités d'Epstein créait une situation de complicité mafieuse, lui permettant de s'assurer la loyauté de ses clients. Mais l'étendue monstrueuse de sa correspondance démontre clairement que ses activités et préférences n'étaient un secret pour personne entrant en contact plus étroit avec lui, et qu'il y avait probablement très rarement seulement un élément de surprise. Les services vendus ou échangés par Epstein faisaient partie d'un tout, et tout le monde semblait connaître à peu près l'étendue des activités du personnage. Dès lors, nous avons moins affaire à des hommes ou des femmes tombant dans un piège qu'à des personnes obtenant précisément ce qu'elles voulaient en toute connaissance des conséquences possibles. De ce point de vue, c'est précisément la notoriété quasi publique, du moins dans certains cercles, qui devait faire office d'éléments presque rassurants pour les différents participants, ou disons plutôt coupables. Car si les divers crimes organisés ou rendus possibles par Epstein étaient connus de milliers de personnes appartenant au plus haut échelon de l'élite mondiale, participer à ces activités pouvait être considéré comme relativement peu risqué, car une dénonciation interne aurait potentiellement généré un effet domino que personne à l'intérieur de ce cercle n'aurait voulu. À partir du moment où l'on considère que ce n'était pas Epstein qui mettait sous pression des individus particuliers, mais qu'il se trouvait au centre d'un réseau de pouvoir englobant des milliers de personnes, toutes à peu près conscientes que s'y déroulaient des choses hautement louches, on n'a plus affaire à une simple histoire de chantage, mais plutôt à une sorte de syndicat public, une élite aussi cynique et amorale qu'assoiffée de pouvoir et d'argent, dirigeant des nations entières par copinage et troc d'influence, tout en se sentant au-dessus de toutes les lois, même les plus élémentaires, de la moralité humaine, et le tout non pas dans quelques arrière-chambres cachées, mais en pleine lumière, visible et connue de milliers, voire probablement de dizaines de milliers de personnes.
Alors cette élite n'est pas vraiment une secte, c'est quasiment le synonyme de la réalité tout court du jeu du pouvoir.
Justement, et ceci nous amène au deuxième point, également choquant pour certains. Contrairement à ce qui avait été souvent prétendu, le réseau d'Epstein ne connaissait aucune limitation à un parti politique ou même à une idéologie spécifique. Littéralement, toutes les catégories de personnages influents s'y trouvaient. Des démocrates aux républicains, des hommes aux femmes, des américains aux européens, des roturiers à la haute aristocratie, des hommes politiques aux oligarques économiques. Certes, quiconque a côtoyé d'un peu plus ou d'un peu plus près le monde politique sait pertinemment que les affrontements idéologiques relèvent largement d'une représentation quasi théâtrale mise en scène pour assurer l'électorat quant au fait que l'arène démocratique serait encore le lieu où se prennent les grandes décisions sur l'avenir d'une nation, alors qu'en réalité, les mêmes personnes prétendant se détester en public n'auront aucun problème à se livrer aux formes les plus diverses de troc de pouvoir une fois les médias et le public exclus de la salle. Très probablement, plus un homme politique agit réellement sous le coup de ses convictions et plus il faut supposer qu'il est en réalité bien loin des lieux où se prennent les véritables décisions. Néanmoins, cette réalité, d'ordinaire traitée avec une certaine discrétion, est désormais devenue une certitude générale. Et dans un monde normal, tel que la plupart des électeurs l'imaginent sans doute encore, nous pourrions nous attendre à un effondrement abyssal de la crédibilité, non seulement de l'élite actuelle, mais aussi du système démocratique que nous aimons régulièrement considérer comme la structure de base de la légitimité et de l'exercice du pouvoir. Hélas, sur ce point aussi, les archives Epstein nous désenchantent cruellement. D'abord, parce que la magnanimité coupable avec laquelle la justice américaine a toujours traité Epstein paraît encore plus inimaginable et confirme les pires soupçons sur les liens souterrains entre justice, politique, finance et crime organisé. Ensuite, parce que la publication elle-même des archives est pour le moins étonnante, ce qui m'amène au troisième point de mes réflexions. Après avoir tergiversé pendant des mois, la justice a finalement décidé de relâcher, sans aucun contexte, commentaire ou analyse, et sans expliquer aussi pourquoi certains passages ont été noircis et d'autres documents retenus, des centaines de milliers de pièces écrites ou visuelles dans la nature. Dès lors, de nombreux analystes ont vu dans cette décision une fuite en avant face à l'impossibilité de contenir plus longtemps l'impatience d'un public et surtout d'un électorat républicain ayant opté pour Trump précisément parce que celui-ci avait promis de résoudre le complexe Epstein. Les responsables ont choisi l'autre extrême, conscient qu'une partie non négligeable de l'élite américaine est impliquée dans ce scandale, on a tenté de noyer le poisson aussi efficacement que possible en submergeant littéralement la foule sous la masse des documents, une tactique qui est presque aussi efficace que la censure. D'abord, parce que ces textes, privés de contexte et régulièrement mutilés par des omissions ou des noircissements, sont à peu près incompréhensibles et donc forcément sans suite immédiate. Ensuite, parce que le réseau d'Epstein était tellement vaste et diffus qu'il est logistiquement impossible d'en venir à bout, de sorte que juridiquement, cela revient presque au même de maintenir debout ou de faire s'écrouler l'ensemble du réseau. D'une manière ou d'une autre, la forêt cache l'arbre. D'autant plus que nous devons supposer que les documents les plus intéressants n'ont pas été divulgués et ne le seront probablement jamais, ou seulement un jour à des fins de règlement de compte interne. Ainsi, la publication présente des archives est autant un témoignage de complicité et de culpabilité que leur rétention jusqu'à présent.
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite selon vous?
Ben, c'est difficile à dire, mais tout cela n'est pas de très bon augure pour les conséquences. D'abord, le système lui-même tient debout, toujours, précisément parce qu'il n'est pas défini par la présence ou par l'absence d'un seul personnage, mais parce qu'il constitue un réseau cohérent, compact, omniprésent, qui ne doit pas être vu, comme on l'avait dit, comme une secte ou un club ou une minorité, mais purement et simplement comme synonyme de l'ensemble, ou du moins de la majeure partie, des véritables décideurs du monde occidental. La mort prétendue, ou du moins l'absence factuelle d'Epstein, n'y changera rien du tout. Ensuite, faute d'exceptions positives notables, il y a un vrai risque que la population, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, se résignera à dire « Oui, les hommes politiques sont corrompus, c'est une honte, mais c'est le cours des choses, nous n'y pouvons rien faire, nous autres petites gens. » Dès lors, il est fort à parier que, quelques inconditionnels et idéalistes mis à part, l'électeur passera très rapidement à autre chose dans les semaines à venir et que la justice américaine veillera à ce que d'éventuels procès soient tellement différés et limités que l'issue de l'affaire sera analogue au cas du trou, qui lui aussi n'avait abouti qu'à des déceptions finalement. Ainsi, en réalité, l'affaire Epstein ne fait que révéler, sous une forme particulièrement obscène, des mécanismes aussi anciens que les civilisations elles-mêmes, la collusion entre pouvoir politique, richesse matérielle, violence symbolique ou réelle, et instrumentalisation de la sexualité, des cours impériales de Rome par le marquis de Sade et ses amis, aux frasques cachées des États bureaucratiques contemporains, les mêmes logiques reviennent sans cesse. L'impunité des puissants, la marchandisation des corps, la corruption institutionnalisée et le silence complice des cercles dirigeants. Epstein n'est pas une anomalie historique, mais plutôt un symptôme, un genre de révélateur brutal d'un ordre où l'élite, lorsqu'elle n'est plus contenue par une culture morale forte, tend spontanément vers la prédation. Ce qui choque aujourd'hui, ce n'est donc pas seulement l'existence de tels réseaux, mais aussi et surtout leur visibilité soudaine dans un monde qui se raconte encore l'histoire rassurante du progrès, de la transparence, de la démocratie, de l'état de droit. Or, aucune société n'est immunisée contre ces dérives. Seules varient leur forme, leur justification et leur degré de publicité. Et à cet égard, l'affaire Epstein agit comme agent de miroir cruel tendu à l'Occident contemporain, agent de miroir où se reflète à la fois son cynisme politique, sa confusion sexuelle, sa tolérance croissante à la violence symbolique et autres, et son acceptation fataliste de la corruption. Je citerai ici, pour finir, ce qu'avait dit Frank Herbert, l'auteur de Dune, qui avait dit « It is not that power corrupts, but that it is magnetic to the corruptible ». Donc ce n'est pas que c'est le pouvoir qui corrompt, mais plutôt que c'est le pouvoir qui attire comme un aimant tout ce qui est corruptible. C'est à nous de nous en souvenir, à chaque fois que nous nous trouvons en contact avec le pouvoir, et de lutter encore et toujours contre la banalisation de la perversion du pouvoir.
Merci David Engels pour cette chronique. Je pense que ce qu'on peut dire quand même finalement, c'est que tout ceci ne va pas arranger la grave crise de confiance qui régnait et qui s'établissait déjà entre le peuple et les élites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup se demandent si on peut encore croire certains de nos dirigeants.
Oui, absolument, absolument. Mais bon, il faut espérer que la population ait un peu de mémoire longue et qu'on n'oublie pas ça trop rapidement. Et voilà, il faut espérer. J'ai pas envie d'être trop défaitiste, mais il y a un réel risque.
Bah oui, on va continuer à espérer. Et encore une fois, merci pour cette chronique. C'est la dose de réalisme qu'il nous faut, même si on va continuer d'avancer. Merci. Absolument. David Engels, et puis je vous dis à lundi prochain.
Tout à fait, bonne semaine, au revoir.
Ligne droite, l'analyse.
On poursuit avec votre analyse, Régis Le Sommier. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte.
Toujours sur le même sujet, cette affaire Epstein.
Oui, alors avec un angle un petit peu particulier, puisque moi j'ai choisi d'essayer de comprendre, de vous donner des éléments ce matin pour essayer de se dire finalement, est-ce que ces dossiers servent Donald Trump ou est-ce qu'ils le desservent ? Voilà. Parce que, évidemment, Donald Trump est lié à Jeffrey Epstein, on va essayer d'analyser, de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on va commencer, on va revenir aux origines, hein. Nous sommes dans au milieu des années 80, Donald Trump et Jeffrey Epstein partagent le fait de vivre à New York et d'avoir des résidences secondaires en Floride. Ils fréquentent les mêmes cercles. L'un est magnat de l'immobilier, l'autre est un golden boy de la finance. C'était d'une époque, il faut se replacer, de faste. Trump misait, dépensait, construisait. Il a failli par deux fois se retrouver au bord de la faillite. Et Epstein, lui, appartenait à ces clubs de financiers outranciers qu'on trouve grimés à merveille sous les traits dans le film American Psycho avec l'acteur Christian Bale, alias Patrick Bateman, et également dans, évidemment, le roman dont est tiré ce film de Bret Easton Ellis. Donc, c'était l'époque American Psycho. Donc ces gens-là se donnaient des airs de figurer au sommet du monde. Or, de simples professeurs de mathématiques au départ, Epstein avait gravi les échelons de Wall Street en un rien de temps. Il ne va pas tarder d'ailleurs à mettre au profit sa fortune au service de ses pulsions les plus sordides. La vraie question qu'on peut se poser, c'est Trump l'a-t-il su à l'époque ? Et là, rien ne l'indique. Alors, parce que Epstein présentait toute la gamme des célébrations, entre guillemets, du rendez-vous d'affaires aux séances de viol impliquant des mineurs, en passant par des fêtes somptueuses où les femmes étaient nombreuses, jeunes, parfois très jeunes. Trump était de ces fêtes-là. Alors, on a vu certaines photos dérangeantes, hein, qui en attestent. Mais si le milliardaire de l'immobilier a bien accompagné Epstein à bord de son jet, hein, le fameux Lolita Express, au moins à 7 reprises ces années-là, ce ne furent que pour des vols de New York à Miami et non pas des excursions sur fond d'orgies de mineurs sur l'île maudite d'Epstein. C'est d'ailleurs la ligne de défense principale de Donald Trump, je n'ai jamais été dans l'île. De plus, si les deux ont été bons amis, leur relation se dégrade fortement dès 2004. En 2007, Trump chasse Epstein de Mar-a-Lago. Sa propriété, d'ailleurs, il faut pour un petit élément pour réaliser, se trouve à seulement 3 km de celle d'Epstein à Palm Beach. Donc, ils ne sont pas exactement voisins, mais ils sont très proches. Alors, apparemment, l'origine de la rupture se situerait justement dans l'agression par Epstein aurait été victime une jeune fille du club auquel les deux hommes appartenaient. Il faut dire que Trump a des raisons d'être méfiant. Epstein a été condamné pour sollicitation de mineurs en 2006 au terme d'un procès assez médiatisé à l'époque et placé 2 ans plus tard sur le fichier des délinquants sexuels. Cette première condamnation a été, je l'ai dit, l'objet d'une procédure depuis plusieurs années. Les premiers enquêteurs ont été menacés par des autorités à la botte du milliardaire, car Epstein arrose tout le monde, c'est sa technique. Hein. Il viole les filles, il les réduit en esclavage, avec sa complicité notamment de sa compagne Ghislaine Maxwell, mais en retour il les paye, au point que certaines décrivent, au-delà des sévices, une atmosphère presque familiale à Palm Beach. Il paye aussi les policiers du comté, les juges, et sans l'intervention du FBI et de quelques magistrats courageux, les plaintes déposées à l'époque par ses victimes auraient été classées. Alors c'est à Palm Beach véritablement que, et c'est très important d'en revenir à ça, que le pédophile a bâti la structure de son organisation du vice. Il cible évidemment des filles pauvres à qui il demande de ramener avec elles d'autres filles. En tout, plus de 1000 filles auraient été concernées dans les années 90. Epstein utilise en revanche son appartement de New York pour approcher les milieux d'affaires, comme il le fera au début des années 2000 en achetant le fameux appartement, vous savez, au 22 avenue Foch à Paris. Alors, lorsque Jeffrey Epstein est arrêté en 2019 à New York, c'est à la sortie d'un vol d'ailleurs qui arrive de Paris. On s'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu plus d'enquêtes dans le cadre de l'affaire Epstein qui a été déjà jugée sur le volet parisien. Hein, car l'appartement de l'avenue Foch, il l'a acquis d'abord dans le but d'y recevoir des hommes d'affaires moyen-orientaux, russes, de l'Est, pour ses affaires, et en fait, il a un majordome qui gère son appartement depuis 18 ans. Mais parmi tous ces lieux de résidence, Jeffrey Epstein a vraiment un faible pour Paris. La mère de Ghislaine Maxwell, rabatteuse du réseau de jeunes filles, est française. Le couple aimait flâner dans les rues de la capitale, mais ce n'est pas tout. En France, Jeffrey Epstein, on s'en souvient, avait un autre rabatteur, en la personne de l'ancien agent français de mannequin Jean-Luc Brunel, accusé par plusieurs top modèles. Il a été mis en examen en juin 2021 pour viol sur mineur de plus de 15 ans. Aux États-Unis, dans l'affaire Epstein, Brunel sera accusé par aussi 2 femmes d'avoir joué le rôle de rabatteur, amenant aux États-Unis des jeunes filles venues de milieux modestes, toujours le même scénario, en leur faisant miroiter l'espoir de travailler dans le mannequinat. Que ces jeunes filles soient mineures ou pas, peut lui importer. Qui se ressemble s'assemble. Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel utilisaient les mêmes méthodes de recrutement. Ainsi, une des victimes d'Epstein, Victoria Robert Guffrey, dit se souvenir d'avoir rencontré 3 jeunes filles de 12 ans que Jeffrey Epstein aurait fait venir en avion pour son anniversaire par l'intermédiaire de Jean-Luc Brunel. Dernier détail, Jean-Luc Brunel finira par se suicider dans sa prison, dans sa cellule de la prison de la santé, comme Epstein. Et Donald Trump dans tout ça ? On l'a dit, il a rompu avec Epstein définitivement en 2007. Ça l'exonère quelque peu de la trace de boue qu'Epstein semble laisser sur toutes les personnes qu'il fréquente. Surtout, on l'a dit, il assure n'être jamais allé dans l'île. L'île, c'est la quintessence du piège Epstein. Quiconque s'y rend se voit associé à la perversité de l'individu. Dès lors, comme on dit, Epstein a des dossiers. Certains courriels publiés montrent d'ailleurs parfaitement qu'il savait faire chanter ceux qui étaient allés qui s'en était allé à se rendre chez lui. Bill Gates, Bill Clinton, Noam Chomsky. Clinton, d'ailleurs, dans un des courriels, Epstein dit qu'il aimait les filles jeunes. Voilà. Michael Jackson, il y a aussi le magicien David Copperfield, Stephen Hawking, ou encore le coiffeur des stars, Frédéric Fekai. Le prince Andrew est évidemment de la partie, et dans les documents publiés, il apparaît à 4 reprises en compagnie de filles qu'on devine très jeunes. Elles sont masquées derrière un voile noir, mais on comprend simplement en regardant les photos. Mais revenons à l'appartement Avenue Foch. Si en effet, Jeffrey Epstein, comme à New York, qui recevait des hommes d'affaires, il lui est arrivé de prêter son domicile parisien pour des échanges d'une toute autre nature, en attirant par exemple des personnalités britanniques. Ainsi, parmi les documents rendus publics par la justice américaine, on découvre Lord Mandelson en slip et en t-shirt, avec un iPad à la main qu'il montre à une jeune fille en peignoir dans le salon de l'appartement parisien d'Epstein. Mandelson a occupé entre janvier et juin 2025 le poste d'ambassadeur britannique à Washington. Aussitôt après les révélations, il a annoncé qu'il quittait son siège à la Chambre des Lords. Et ce n'est pas uniquement à cause de la photo fâcheuse d'ailleurs, parce qu'on va comprendre encore comment le piège Epstein se referme sur ceux qui le côtoient. Car, comme souvent avec Epstein, affaires et plaisirs ne sont jamais éloignés. Ainsi, lorsque Peter Mandelson était ministre du Commerce dans le gouvernement de Gordon Brown, il aurait fait fuiter à Epstein des courriers adressés directement au Premier ministre. Le Financial Times affirme qu'à un autre moment, il aurait suggéré à Jeffrey Epstein de demander au patron de Jesse de menacer légèrement le ministre des Finances britannique, le tout évidemment moyennant de grasses rémunérations. Cette révélation va aboutir hier à la démission du chef de cabinet de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui est très affaibli avec cette affaire. Ce chef de cabinet est accusé d'avoir suggéré le nom de Mandelson pour le poste d'ambassadeur britannique à Washington, tout en ayant connaissance des faits. La mise à disposition du public du dossier Epstein et quelques 3 millions de documents ne s'est pas faite d'un seul coup. Revenons à Donald Trump, qui avait fait de cette divulgation, comme de celle du dossier Kennedy, une promesse de campagne, accusant ouvertement les démocrates de ne pas l'avoir fait, car ils avaient, selon lui, des choses à se reprocher. Une fois élu, cependant, on peut penser qu'en ayant connaissance du contenu des documents, Trump a hésité, y figurant parfois plusieurs milliers de fois, ne risquait-il pas lui-même d'être associé aux pédocriminels ? Premier exigé de Trump, on l'a oublié, que ces documents soient rendus publics, c'est Elon Musk, lui-même cité dans les documents. Ce point est d'ailleurs à l'origine de leur dispute. J'ai retrouvé le post sur X que Musk avait écrit sur Trump. Il disait « Il est temps de lâcher la grosse bombe, Trump est dans les dossiers Epstein ». Donc ça c'est Musk qui avait rendu public cette vérité. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics, avait-il écrit. La Maison Blanche à l'époque avait regretté qu'ils tiennent des propos et Trump l'avait accusé d'avoir perdu les pédales. Pourtant, quand on y réfléchit bien, les deux hommes se sont réconciliés depuis. On les a vus récemment à un mariage ensemble. La base MAGA de Trump a elle aussi protesté du retard de la publication à la publication de ces documents. En donnant son accord pour la publication vendredi dernier par le ministère de la Justice américain, Donald Trump a fait le pari, en fait, que ces documents feront plus de mal à ses adversaires qu'à lui-même. Et Elon Musk aussi, qui dès le premier jour de la publication, ça aussi il faut regarder le timing, s'est exprimé pour expliquer qu'il avait toujours refusé les sollicitations d'Epstein. Alors on peut se demander si au départ les deux hommes n'étaient pas complices, Musk mettant la pression pour la publication, Trump feignant l'hésitation pour préparer une défense en béton et in fine autoriser la publication. Avec cet étalage de grandes semondes figurant dans les combines d'Epstein pour des affaires visant le pouvoir ou l'enrichissement, sans nécessairement visiter l'île maudite ou se livrer à des passions pédophiles, on peut faire le constat que nombre des élites se caractérisent aujourd'hui par leur capacité à se faire corrompre. Tout le monde a pu voir qu'il existe pour de vrai une élite transfrontalière dont les perversions et les magouilles se font dans le dos des peuples, avec un rapport plus que lointain avec la démocratie. À ce titre, le dossier Epstein n'est pas qu'une affaire de mœurs, il est aussi, hélas, le reflet de ceux qui nous gouvernent. À noter enfin et pour finir qu'il reste environ 2,5 millions de documents qui n'ont pas été encore sortis. Trump peut ainsi laisser les personnalités citées se construire une défense. On l'a vu balbutiante avec Jack Lang, qui a in fine été obligé de démissionner son poste à la tête de l'Institut du Monde Arabe, et ensuite publier d'autres documents qui viendront fragiliser cette défense. Il est clair qu'il possède entre les mains une arme redoutable. 80% des individus visés lui étaient hostiles, une bonne partie appartenant à une sphère, on va dire, démocrate globaliste.
Merci Régis pour cette chronique qui résume déjà parfaitement toute l'affaire et puis effectivement qui nous explique bien quelles peuvent être les influences ensuite sur Donald Trump. N'empêche que, vous l'avez très bien dit, le pari qu'aujourd'hui fait Donald Trump, c'est de se dire que ça affaiblira plus ses adversaires que lui-même. Est-ce qu'il n'a pas conscience que d'une façon ou d'une autre, ça l'abîmera quand même un peu au passage ?
Oui, mais je pense que Donald Trump est un personnage qui d'abord dans sa vie n'a jamais souhaité apparaître comme le chevalier blanc. Il veut casser un système, il a décidé de s'attaquer à l'État profond, c'est une des caractéristiques de sa deuxième, dans son deuxième mandat, puisque le premier mandat, il n'avait pas, il l'avait, on va dire, passé, où il, ce mandat s'était déroulé avec un Donald Trump accusé, acculé presque par l'État profond, avec des journaux comme le New York Times, le Washington Post, qui étaient véritablement contre lui et qui, finalement, le cornaquaient dans un coin. Il n'avait pas pu s'organiser. Il a préparé son retour. Les dossiers Epstein font partie de cette préparation. C'est des choses... Et je pense qu'il y a eu... voilà, le vrai calcul de Trump, c'est ça. C'est, oui, il est impliqué avec Epstein. Oui, il a participé. Il a été très, très ami avec le milliardaire. Les deux, d'ailleurs, font état de ont fait état dans des diverses interviews à l'époque d'admiration mutuelle. Mais il y a le point de rupture qui, aujourd'hui, quelque part, protège Donald Trump. Est-ce que il y a des photos de Donald Trump dans des positions beaucoup plus compliquées à défendre? Je n'en sais rien. Je sais qu'on le voit avec des filles quand même très jeunes dans des films de l'époque, mais on ne voit pas Donald Trump à l'image, par exemple, de Peter Mandelson ou le prince Andrews debout sur des filles en train de. On imagine ce qui se passe avant ou ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après. Il y a pas ça avec Donald Trump. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? C'est toute la question. Maintenant, je pense que il y a une certaine méfiance. C'est intéressant parce que il y a deux, trois éléments comme ça qui montrent que dans cette sphère globaliste, des élites globalisées, on connaît la réputation d'Epstein. Je prends un exemple assez net aussi, c'est celui de Bruno Le Maire.
Ouais.
Bruno Le Maire qui est pardonnez-moi les dates, je les ai peut-être un peu oubliées, mais en tout cas, Bruno Le Maire, Jeffrey Epstein cherche à se mettre en contact, il fait toujours ça, par un intermédiaire avec Bruno Le Maire. Il utilise un homme d'affaires émirati à Paris, qui va essayer de d'organiser une rencontre, mais en fait, la rencontre va se faire à New York via un personnage qui aujourd'hui est sur la sellette, qui est un ancien conseiller à l'Élysée, qui s'appelle Olivier Colomb, et Olivier Colomb va véritablement provoquer la rencontre entre Jeffrey Epstein et Bruno Le Maire à New York. Cette rencontre a lieu dans l'appartement new-yorkais de Jeffrey Epstein. Faut bien considérer que, bien comprendre qu'avec Epstein, il y a ce qu'on appelle des antres. Palm Beach en est une, New York en est une, l'appartement à Paris en est une, et pour couronner tout ça, le sommet de la pyramide, évidemment, c'est l'île. Donc la géographie d'Epstein, elle se compose de cette façon. Il y a aussi un petit volet Marrakech sur lequel, à mon avis, on apprendra un peu plus au fur et à mesure que les choses vont se déballer autour de Jacques Lang, mais en tout état de cause, c'est comme ça que ça se fait. Et là, qu'est-ce que fait Epstein? Il réunit chez lui des financiers new-yorkais et Bruno Le Maire, à l'époque ministre de l'économie, accepte de se rendre dans cet appartement. Mais le détail intéressant, c'est que Bruno Le Maire donc arrive dans l'appartement, reconnaît certains financiers et au moment où il voit Epstein, il opère une retraite prudente. Et il quitte l'appartement, prétextant, on ne sait pas trop quoi. Il n'a pas été véritablement interviewé là-dessus. Hein. J'ai pas vu de remarques de sa part, mais en tout cas, il n'est pas resté dans l'appartement quand
preuve
il l'a vu.
Qu'il savait que Jeffrey Epstein était un personnage chauffeur.
Exactement. Et comportait donc la défense de Trump, à mon sens, est crédible. Elle montre que certaines personnes, je crois qu'il y avait la marque Hermès également, qui intéressait beaucoup Epstein et qu'il avait proposé d'organiser
un grand don.
Voilà,
et qui a été refusé par la maison
en
Hermès.
Raison parce que il est clair que dès 2006 pour la condamnation et l'inscription au fichier des délinquants sexuels en 2008, Jeffrey Epstein, c'est notoriété publique, on sait que ça existe. Donc là, vous avez
même la défense de Jack Lang qui explique qu'il est tombé des nues,
oui,
et qu'il n'en avait pas connaissance. C'est vraiment le niveau de déconnexion plus total. Il continue de nous prendre pour des cons, pardonnez-moi. mais...
Ah oui, alors sans compter que lui, ça fait 50 ans qu'il est...
qu'il est visé pour ce genre d'affaires.
Voilà, et que, on sait qu'il a bénéficié d'une extrême protection, et qu'on le retrouve je crois que c'est 680 fois mentionné, et sa fille 2000 fois. Les relations étaient quasi familiales. D'ailleurs, Epstein le disait dans certains de ses emails avec Jack Lang, c'est la famille. Enfin, c'est voilà, il y avait. On ne bâtit pas, on ne fait pas, on ne crée pas une société comme ça avec des gens en qui on n'a pas confiance. Donc là, c'est accablant. Mais ce qui est intéressant avec la réaction de Bruno Le Maire, c'est de se dire, voilà, il est ministre de l'économie, il ne peut pas se compromettre avec des personnes au pédigré douteux, et il sait qu'Epstein, et Donald Trump aussi, puisque il y a une rupture dans, entre 2004 et 2007, il y a quelque chose qui se passe, alors qu'avant, ils ont été effectivement très copains.
Pour le peuple américain et puis même français, c'est quand même, il y a une rupture de confiance qui est certaine. C'est-à-dire que même si Trump ne se retrouve pas personnellement visé par les fichiers qui seraient révélés, il va quand même y avoir probablement ce mouvement de recul des populations qui se disent mais en fait qui peut-on croire désormais ? Et puis surtout voilà ce qu'on nous expliquait du complotisme de bas étage pendant des années, en fait il s'avère que non seulement c'est vrai, mais en plus l'horreur va peut-être même bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer.
Oui.
Dans quelle mesure est-ce que cette confiance brisée elle pourrait pas aussi atteindre Donald Trump ?
Alors c'est possible, je ne sais pas quelle va être la réaction des Américains. Lui-même a réagi à la publication en disant il est temps de passer à autre chose. On a d'autres problèmes.
C'est peut-être un peu rapide pour les Américains.
Laissons quand même les gens digérer et laissons les gens aller voir. Parce que là aussi, ce que les journalistes ne veulent pas nous dire, il suffit d'aller sur le site du ministère de la Justice américain et de prendre, de rentrer un nom et de regarder ce qui s'est dit ou ce que Jeffrey Epstein a dit de cette personne.
Pourquoi cette volonté justement de rendre ça public au point de rendre accessible à toute la planète ces fichiers ? Est-ce qu'il y a une stratégie politique derrière ça ?
Je pense que oui. Voilà l'analyse que je vous en livre. Donald Trump a bâti son pédigré politique dans l'idée de mettre à bas le Deep State. Epstein est l'incarnation de cet état profond. Puisque ça remonte jusqu'aux banquiers, jusqu'à la famille Rothschild, qui est très éclaboussée dans cette histoire. Donc on est vraiment dans le cœur nucléaire dans la matrice de la façon dont fonctionnent les élites mondialisées, on va dire. Et elles sont quasiment toutes mondialisées. Et Trump, lui, s'oppose à ça. Trump veut, tout en ayant été au départ éduqué dans ce milieu, a souhaité assez tôt rompre finalement avec ce milieu familial, milieu d'affaires new-yorkais dans lequel il est né. Il s'est placé assez rapidement, on peut pas lui dire que c'est qu'il fait semblant, du côté de l'Américain moyen, du côté de l'oublié de la mondialisation. Ça, je parle des thématiques qui l'ont amené au pouvoir, notamment en 2016, face à Hillary Clinton. Hillary Clinton représentait déjà à l'époque, et elle représente toujours, puisque les Clinton sont largement impliqués dans les dossiers Epstein. Ils vont d'ailleurs témoigner devant le Congrès. Le Congrès a ouvert d'ailleurs une enquête. Donc tout ça va se faire en transparence. C'est ça l'avantage du système américain, c'est que quand un scandale est révélé, il y a une vraie commission. Je ne dis pas qu'en France, il n'y en a pas, mais souvent on a l'impression que c'est un peu passé à l'as, ou ça passe assez vite à la trappe, et surtout, il n'y a aucune conséquence. Là, on va voir des choses, donc c'est pas fini, les conséquences de l'affaire Epstein ne sont pas finies, mais Donald Trump s'est placé dans l'idée d'une régénération du personnel politique et dans l'idée de, avec comme objectif America First, les intérêts américains, et il se tient à cette ligne directrice. Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump a commis des excès, sans doute pendant sa jeunesse, a connu ses cette période de folie des années 90, l'âge des milliardaires. Alors aux États-Unis, ils en avaient 10, 20, 30, 50 des milliardaires. Nous, à l'époque, on en avait un seul, c'était Bernard Tapie. Et souvenez-vous, c'était inhabituel, cette façon américaine de faire de la politique. À l'époque, c'était la pleine gloire de Donald Trump. On construisait des tours partout, des casinos. Donald Trump avait eu l'idée assez géniale de faire de son nom une marque. Bref, c'était l'époque du capitalisme triomphant, sans frontières, et tout ça est révélé et rappelé par les Epstein Files à tous les coins de tweets. On comprend qu'il y a une impunité totale, qu'il y a l'idée d'opérer dans un monde de puissants totalement déconnecté des populations, ou alors qui se connectent aux populations à travers ces filles pauvres dont les familles sont dysfonctionnelles, dont les mères sont souvent il faut regarder le documentaire, je le recommande sur Netflix, sur l'affaire Epstein, où on voit les témoignages de ces filles, des longs témoignages qui expliquent que leur milieu les pousse à aller chez Epstein, parce que chez Epstein il y a de l'argent, que les parents sont soit des drogués, soit n'existent pas. Et au départ, ça commence toujours de la même façon. Je reviens sur l'épisode Palm Beach, avec salle de massage, caméra dans toutes les pièces, etc. Et progressivement, la fille commence à faire partie de la structure. Elle ne peut pas s'échapper. Et surtout, Epstein utilise l'argent roi, vraiment qui à l'époque ne connaissait aucune limite, pour acheter ses victimes et acheter aussi les responsables autour qui pourraient venir nuire à son business. C'est ça qui est incroyable. Ce qui est fou aussi, c'est que quand on sait les premiers, quand on regarde les procès, donc je rappelle 2006-2008, là Epstein est désigné, il y a un long procès en Floride, quand on veut bien s'y intéresser, même si la peine qu'il reçoit est complètement en deçà du mal qu'il a causé, impliquant dans son réseau près de 1000 filles. On est quand même dans le documentaire, il y a une des filles qui dit j'ai ramené 40 filles. Donc s'il faisait ça à chacune, c'est sûr que ça fait
exponentiel,
voilà. Et ensuite, donc, il en fait profiter ses amis dans le but de les faire chanter. Et là, c'est toujours le même système. J'ai ça sur toi, donc tu vas m'obéir, donc tu vas faire ça, etc. Je pense que l'exemple britannique de à la fois Peter Mandelson et surtout le prince Andrew, là on est vraiment dans la quintessence du système du système Epstein. Il n'est pas parvenu en France à aller à corrompre les élites à ce point. On sait qu'il a été en contact avec Emmanuel Macron, on sait qu'il lui a adressé des emails. Emmanuel Macron, pour le moment, l'Élysée essaye de déclencher des contre-feux, on le voit bien. Le lâchage de Jacques Lang est une des conséquences de ça. On se dit, on va lâcher Jacques Lang, comme ça on n'ira pas plus loin. Mais je ne crois pas, très sincèrement, de ce que j'ai vu, peut-être qu'il existe d'autres choses, mais que le gouvernement français ait été aussi impliqué, aussi permissif aux avances de Jeffrey Epstein que l'ont été les Britanniques, jusqu'à aujourd'hui, bien fragilisé à l'extrême, le gouvernement Keir Starmer, au point qu'on puisse envisager, dans les jours peut-être qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, une démission du Premier ministre.
Dans tous les cas, il y a quand même eu une certaine complaisance vis-à-vis de Jeffrey Epstein. Vous l'avez rappelé, il y a quand même probablement certaines choses qui se sont déroulées dans son appartement avenue Foch, et on s'étonne qu'il n'y ait pas encore d'enquête plus poussée à ce propos. Mais ça révèle aussi, vous l'avez mentionné, tous ces liens en fait de l'État profond. C'est-à-dire que toutes ces personnalités, que ce soit directement ou indirectement, se retrouvent liées entre elles. On parle de Rothschild qui va se retrouver éclaboussé par cette affaire Epstein. Rothschild qui est aussi extrêmement lié à Emmanuel Macron. Et puis quand on tire la pelote, finalement, on voit que toute la grappe est susceptible de venir, que ce soit pour des raisons plus humaines de pédophilie ou bien des raisons purement financières.
Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi les contre-feux qui ont été allumés depuis longtemps avec ces fameux fact-checkers qui qu'on connaît bien et qui ont du mal à se défendre parce que ce contre quoi ils ont lutté se révèle étalé au grand jour et qui sont bien obligés d'admettre que dans leurs adversaires avaient raison en fait finalement, et qui sont liés aussi à des groupes et des intérêts bien compris. Donc voilà, qu'on est vraiment dans un déballage qu'on n'a pas fini de commenter. Et dans cette histoire, je pense que c'est... j'ai entendu Philippe de Villiers sur CNews expliquer que, qu'il n'y en avait pas 10% qui avaient été révélés, que le gros allait suivre. On se demande ce que ça va être, parce que déjà les 10%, c'est violent. On réalise comment l'état de notre monde, qu'est-ce qui va suivre.
Oui, c'est absolument effroyable. Merci beaucoup, Régis, en
Merci.
Tout cas, de vous plonger dans toutes ces affaires pour nous en présenter un condensé si clair. On se retrouve la semaine prochaine, mais qui sait, d'ici là, on aura peut-être à nouveau de gros dossiers à commenter, et on le fera avec vous avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci, Lisotte. Bon, bonne semaine.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit avec la chronique de Raphaël Audouard. Bonjour et merci d'être
Bonjour.
Avec nous. Alors, ce week-end se déroulait le second tour de l'élection présidentielle portugaise. Quels sont les résultats? Dites-nous tout.
Alors, ce second tour opposait le socialiste António Seguro au candidat patriote André Ventura, président de Chega, le parti populiste de droite portugais. Sans surprise, c'est António Seguro, le socialiste, qui a remporté les élections avec 67% des voix. Il avait au premier tour réuni 31% des voix contre 23% pour André Ventura, donc le candidat populiste. Et au second tour, lui, récupère un tiers de l'électorat, 33%. Donc, lors de ces élections, ce qu'on avait vu, c'était un centre-droit très divisé, puisque le Parti social-démocrate, donc le grand parti centre-droit au pouvoir, avait fini, était arrivé en cinquième position avec 11% des voix. Et un autre candidat de centre-droit indépendant avait réuni 12% des voix, et un candidat centriste libéral a réuni 16% des voix. Donc, il y a deux vainqueurs, cette élection. C'est évidemment les socialistes qui remportent l'élection, le Parti Socialiste portugais qui remporte la présidentielle, mais c'est aussi quand même André Ventura, donc la droite patriote, qui se qualifie, qui a réussi en fait deux victoires, si on peut dire, la qualification au second tour, et surtout un second tour bon en fait, parce qu'il récupère 33% de l'électorat, donc il progresse de 10 points par rapport au premier tour. On voit non seulement qu'il est capable d'arriver au second tour, mais qu'en plus de ça, au second tour, il est capable d'aller chercher une partie de l'électorat de droite qui a préféré voter pour lui que pour le candidat socialiste. Donc ces résultats confirment l'importance prise par Chega seulement 7 ans après sa fondation.
Alors quels sont les enseignements de ces élections?
Alors tout d'abord, on voit que le bipartisme portugais a explosé. Pendant longtemps, les deux grands partis portugais, le Parti Socialiste et le Parti Social-Démocrate, dominaient la vie politique portugaise. Maintenant c'est fini, on voit qu'il y a une tripartition. Lors des dernières élections en 2025, l'élection législative, le centre-droit avait réalisé 33% des voix et les socialistes et Chega, donc le parti droit patriote, 24% des voix. Donc on voyait déjà... Il y avait une tripartition, là c'est confirmé avec l'arrivée au second tour d'André Ventura. Et dans les sondages, ce qu'on voit aussi, c'est que maintenant, les trois principaux partis du pays, donc la gauche, la droite et les patriotes, sont à peu près au même niveau. Alors, une interrogation qu'on pourrait avoir, c'est est-ce qu'on va avoir aussi une forme de quatrième pôle libéral, puisque là, on a vu que les libéraux d'initiative libérale avaient réuni 16% des voix, et on voit qu'il y a une partie de l'électorat qui se dirige soit vers les libéraux, soit vers les écologistes. Donc on a 15% de l'électorat, surtout dans les grandes villes plutôt jeunes, qui va voter pour ces partis-là un peu plus en périphérie. Et l'autre enseignement, c'est qu'on voit une division sociologique assez claire dans le vote. Tout d'abord, il y a deux éléments qu'on retrouve dans tous les pays occidentaux, y compris en France, c'est la division selon l'âge et la classe sociale. Ce qu'on voit, c'est que les personnes plus âgées, à partir de 60 ans, ont plutôt voté soit pour le centre-droit, soit pour le centre-gauche. Ce qu'on voit, c'est que l'électorat, on va dire, des personnes qui sont des actifs entre 25 et 60 ans, ont plutôt voté, en tout cas, ont plus voté pour les patriotes. Et on voit ensuite une surreprésentation du vote libéral, donc centriste, chez les jeunes. Et au niveau de la classe sociale, on retrouve les éléments classiques, c'est-à-dire que les classes populaires et moyennes et les personnes sans diplôme votent plutôt pour les patriotes, alors que les personnes très diplômées, les classes supérieures et aisées, votent plutôt pour les candidats de centre-gauche et de centre-droit. À ces deux divisions s'ajoute une autre division qu'on retrouve dans la plupart des pays occidentaux et pas en France, c'est la division en fonction du genre, puisque le candidat patriote fait un survote chez les hommes, alors que les sociodémocrates, les centristes font un survote chez les femmes. Donc on a une tendance des femmes à voter plus au centre et des hommes à voter plus aux extrêmes. Mais cette division-là, on ne la retrouve pas trop en France, on la retrouve dans beaucoup d'autres pays. Donc le Portugal, qui a longtemps été une exception, rejoint le reste de l'Occident avec ce développement de forces de droite populistes patriotes qui émergent.
Alors pourquoi est-ce que vous nous dites que le Portugal a longtemps fait figure d'exception en Europe ?
En fait, il y a pendant longtemps une forme d'exception ibérique. Espagne, Portugal faisaient partie des rares pays où il n'y avait pas de droite patriote forte. Ça s'explique en grande partie par l'héritage des dictatures d'extrême droite qui ont été présentes dans ces pays-là, Franco et Salazar. C'était encore pire au Portugal, puisqu'au Portugal, en Espagne, c'est le régime qui s'est fondé sur lui-même. Mais au Portugal, il y a une révolution, c'est la révolution des œillets en 1974, qui a mené à une quasi-disparition de la droite. D'ailleurs, le grand parti de droite au Portugal s'appelle le Parti Social-Démocrate. Donc, ce qui montre un peu la difficulté à se revendiquer de droite au Portugal. Et donc, cette exception, ça a pris fin avec l'apparition de Vox en Espagne en 2013 et maintenant avec l'apparition de Chega depuis 2019 au Portugal.
Et quelles sont les évolutions à venir de la vie politique portugaise selon vous ?
Ce qu'on voit déjà, c'est que Chega est devenu la seule force, anti-système, populiste au Portugal. L'extrême gauche, qui a longtemps été très puissante au Portugal, a complètement disparu. Le Parti communiste et le Bloc de gauche, qui étaient les deux grandes forces de gauche radicale, ont complètement disparu de l'échiquier politique. Donc on a vraiment Chega qui apparaît comme la grande force d'opposition. On a une tripartition, mais qui de fait est une forme de bipartisme, puisque certes, les sociodémocrates, donc le centre-droit, est au pouvoir, mais c'est un gouvernement minoritaire qui n'existe que parce que les socialistes, donc le centre-gauche, ne s'opposent pas à lui. Donc de fait, il y a une forme d'alliance tacite entre le centre-gauche et le centre-droit pour bloquer Chega. Donc ce qu'on devrait voir dans les années qui viennent, c'est cette progression de Chega et une forme de bipartition entre d'un côté Chega, donc le grand parti patriote, et en face, une forme de coalition officielle ou informelle entre le centre-gauche et le centre-droit pour se maintenir au pouvoir.
Merci Raphaël Audouard pour cette chronique. Puis on prend un peu de distance avec tous ces sujets lourds qu'on traite par ailleurs. C'est toujours bien de se replonger comme ça dans les analyses politiques. C'est presque agréable. Merci et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Lislotte.
Bonjour Gilles, merci d'être avec nous ce matin.
Je suis ravi et je conseille aux auditeurs de lire Le cinquième empire de Dominique de Roux sur le Portugal, qui est un bel éclairage sur ce pays complexe.
Ah ben voilà. Sinon, on parle du JD News, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, avec Charles Alloncle qui revient sur sa mission de rapporteur de l'audiovisuel public.
Oui, on le sait, cette commission passionne les Français qui peuvent même regarder en rediffusion les interrogatoires. Ainsi, le député Charles Alloncle exprime clairement à Jules Torres « En vérité, je ne fais qu'accomplir ma mission de rapporteur, enquêter, poser des questions, tenter d'obtenir des réponses, mettre en lumière des dysfonctionnements, des dérives, des responsabilités pour pouvoir les résoudre. Que cela étonne en dit long sur le niveau de sclérose atteint par l'Assemblée nationale, où la seule finalité des commissions d'enquête était de rendre des rapports pour caler des meubles. Tout comme mes collègues Jean-Philippe Tanguy sur les ingérences étrangères ou Alexandre Loubet sur notre souveraineté industrielle, je refuse de m'y conformer. Et Charles Alloncle d'aller encore plus loin, je viens du privé, je suis entrepreneur et j'ai toujours été guidé par l'obligation de résultat. Si ma méthode surprend, c'est peut-être parce qu'elle tranche avec une certaine culture politique française très admirative, procédurière, du verbe en guise d'action et des conclusions conciliantes. Et pour le rapporteur, il a fallu attendre près de 10 ans et une enquête de la Cour des comptes pour découvrir une toute autre réalité. En effet, plus de 80 millions de déficits cumulés depuis 2017, une trésorerie négative. C'est clair pour lui, avec ma commission, je permets aux Français de savoir exactement où va l'argent. Et pour beaucoup, c'est insupportable car c'est une certaine élite qui a pris l'habitude de ne rendre de compte à personne. Avec Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti, la fête sera finie. En 2027, ce que nous proposons aux Français, c'est reprendre le pouvoir. Voilà, au moins c'est clair et c'est à lire dans le JD News.
Puis vous pouvez retrouver certains entretiens de Charles Alloncle à notre antenne où il nous parle
absolument
de cette commission d'enquête. C'est effarant et passionnant à la fois. Suite de la campagne des municipales, sinon que se passe-t-il du côté de Lyon ?
Oui, je vous avais promis que je parlerais un petit peu de la province, Liselotte. Alors, l'avocat lyonnais Alexandre Dupalet s'exprime dans les colonnes de la Tribune de Lyon. Alors, rappelons que la droite avait été éliminée dès le premier tour de la dans la circonscription métropolitaine Lyon-Sud, où il se présente, crédité de 10%. Et du côté du maire, Grégory Doucet, qui se représente, les estimations ne sont pas très bonnes. À mesure que la campagne avance, dit-il, les électeurs voient que notre programme est sérieux, financé, avec des priorités claires sur la sécurité, l'économie, et je représente la seule liste de droite clairement identifiée à Lyon. Je viens de l'UMP, je suis candidat UDR soutenu par le RN, et cette union des droites correspond à l'attente des électeurs au niveau national comme local. Alexandre Dupalet se revendique de la droite républicaine et gaulliste, et le programme du RPR des années 90 sur l'immigration était plus à droite que le nôtre, confie-t-il. Pourtant, les problèmes se sont aggravés, notamment sur l'immigration incontrôlée, avec des conséquences sur l'insécurité, comme le montrent les chiffres du ministère de l'Intérieur. Son programme, alors je veux retrouver la douceur de vivre et le dynamisme économique. En deux mandats, mon objectif est que Lyon dépasse Milan, dont le PIB est aujourd'hui deux fois supérieur. Cela passe par un programme sérieux, sans hausse d'impôts, l'annulation de la hausse de la taxe foncière, 3 heures de stationnement gratuit, un rôle renforcé d'ambassadeur pour le maire. Alors ça, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais bon. Et des zones franches, notamment dans le 8e, en lien avec l'État, sans oublier l'accessibilité, le handicap, la place des seniors et la santé. Grands angles morts de la majorité sortante. Donc c'est à retrouver les propos d'Alexandre Dupalet dans la tribune de Lyon.
Et on essaiera de le recevoir à notre antenne,
oui,
pourquoi pas.
Je pense qu'il accepterait.
Ouais. Et puis la démission de Jack Lang fait la une de nombreux journaux, évidemment.
Eh oui, eh oui, oui.
On l'attendait quand même. Hein.
Absolument. Alors même Libération, hein, qui fut longtemps son complice en matière de culture de gauche, mais qui se résout à l'évidence, titrant « Jack Lang, la chute » en pleine page. Ou le Figaro, bien sûr, qui titre « Comment l'affaire Epstein a fait tomber Jack Lang ». Vendredi, le parquet national financier avait communiqué donc sur l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, je cite, visant l'ancien ministre de la Culture, 86 ans, ainsi que sa fille Caroline. La justice s'intéresse à une société qu'ils ont fondée avec Epstein dans un paradis fiscal, les îles Vierges, et non déclarée au fisc français, ajoute le Figaro, mais aussi à un don du pédocriminel d'un montant de 5 millions d'euros par voie testamentaire au bénéfice de Caroline Lang, dont elle affirme avoir ignoré l'existence. À lire en page intérieure un long portrait qui résume la vue politique du dernier nabab de la Mitterrandie, comme l'écrit Guillaume Tabar, et une chronique de Pierre Vermeren qui en dit long sur le personnage. Je cite « La chute de Jack Lang pourrait signer le crépuscule du gauchisme culturel ». Voici ce qu'il écrit. « La destruction de l'œuvre d'André Malraux a été le corollaire de cette réorientation idéologique. Jack Lang fut à la fois son principal héritier, très attaché à son bureau du Palais Royal, et le principal fossoyeur de son œuvre. La volonté de Malraux d'éduquer le peuple à une haute culture française, de rayonnement mondial, s'est muée en une descente vers un peuple méconnu. Il ne s'agit désormais plus d'aspirer le peuple vers le haut, mais de l'enfermer dans les sous-produits de la mondialisation américaine, du rap au hip-hop, en délégitimant les figures et les représentations de l'universalisme à la française. Je trouve ça assez bien dit. Et je voudrais terminer par la chronique de Geneviève Jurgensen en dernière page de La Croix, qui fait l'éloge de la presse, en particulier les quotidiens. Ben oui, c'est notre lot quotidien, ma chère Liselotte, avouant qu'elle lit tous les jours 5 titres étrangers et un titre français en version digitale, achetant aussi un titre français au kiosque tous les matins. Alors pour elle, cette lecture est un des meilleurs moments de la journée. Grâce à notre goût pour la lecture et les mesures prises pour protéger éditeurs et libraires, écrit-elle, le livre qu'on avait cru condamné a tenu bon. Je veux croire que la presse écrite sauvera sa peau elle aussi, car pas plus que le livre, elle n'est une marchandise comme une autre. Personne ne peut croire que dans À bout de souffle, Jean-Paul Belmondo et toute une génération avec lui seraient tombés amoureux de Jean Seberg si sur les Champs-Élysées, elle avait vendu autre chose que les journaux à la criée. Et puis une dernière chose, s'ouvre aujourd'hui le Salon Wine Paris, en bon français, qui se tient porte de Versailles jusqu'au 11 février. À cette occasion, le Figaro consacre un supplément spécial avec des articles sur les vins de Bordeaux, sur les jeunes talents qui réinventent les terroirs ou sur les nouveaux débouchés des explorateurs de vins français pour pallier la hausse des taxes américaines comme la Colombie, le Costa Rica ou le Cambodge. Alors vive la lecture et vive le vin.
Ben oui, vive le vin, pas vive le wine. Merci Gilles, il nous reste 2 minutes pour la zone libre.
Alors, ouais. Ah, petit générique.
Zone libre.
Je reviens rapidement sur ce que vous nous avez expliqué sur Jack Lang. C'est quand même fascinant que Caroline Lang explique qu'elle n'avait pas connaissance de ce don de 5 millions d'euros. Personnellement, je crois que c'est le genre de détail à côté duquel je ne passerai pas.
Moi, je me rendrais compte, ça tombait sur mon
compte. Elle dit qu'elle n'a rien touché. Alors bon, moi, j'attends de voir l'enquête. Et je pense qu'il y aura une commission d'enquête parlementaire qui va être mise en œuvre. Je pense que c'est François-Xavier Bellamy qui l'a annoncé ce matin. Enfin, du moins, il le suggère. Je voudrais simplement dire une chose. À l'actif de Jack Lang, quoique il avait proposé, vous savez, quand il était mis à la culture, le prix unique du livre qui a été voté à l'époque, en 82, je crois, à l'unanimité par les députés de gauche et de droite à l'Assemblée nationale. Et je trouve ça bien parce que ça a protégé le livre. Voilà, c'était une des mesures. Alors, il y en a certains qui parleront des gadgets, hein, comme la fête de la musique ou la fête du patrimoine, évidemment. Mais ça, c'était une mesure salutaire pour le livre qui fait partie, en France, évidemment, de notre patrimoine numéro un.
Pardonnez-moi, mais ça ne va pas faire oublier le reste.
Puis absolument.
Même Jack Lang, la chute, je pense que pour le moment, on peut dire que c'est une chute en douceur quand même. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de s'envoler pour le Maroc, il revient tranquillement, on le convoque au musée d'Orsay, a priori
au
c'est
ministère.
Pour des affaires, voilà, au ministère.
Ouais.
A priori, c'est, pardon, c'est pas pour des affaires de... Pour des affaires financières, pas des affaires de pédocriminalité, alors que ça fait quand même quelques années que on sort régulièrement. Ça mériterait au moins l'ouverture d'une enquête.
De toute façon, vous savez, cette affaire Epstein, c'est le révélateur de beaucoup de choses, parce que ça a éclaboussé à la fois des personnalités anglaises, des personnes... Non, mais la chose la plus dingue, si j'ose dire, c'est qu'on lui dit, mais vous avez connu M. Epstein en 2019. L'affaire a éclaté en 3 ans avant, 3-4 ans
déjà
avant.
Déjà 2006, 2008.
Oui.
Nous disait Régis
Donc, soit c'est un amnésique qu'on grabataire, soit il fait semblant de ne pas comprendre ça.
Soit il nous prend pour des cons, c'est ce que
voilà,
je disais tout
exactement.
À l'heure.
Un
on passera
deux fois
les
fois
renseigner. Et puis, j'ajoute une dernière chose, c'est quand il a pris la présidence, je crois en 2012, de l'Institut Monde Arabe, la présidence n'était pas rémunérée. Il a exigé d'être payé, et il est payé entre 9 000 et 10 000 euros, plus évidemment toutes ces... C'est salaires, enfin, en tant que retraité du ministère, etc. Donc, ça lui fait à peu près 25 000 euros par mois. Donc, c'est pas mal.
Un homme charmant, qui est payé pour être charmant.
C'est ce qu'on appelle la gauche poireau. Non, caviar.
Caviar, voilà. Oui, poireau. ça sent.
Poireau vinaigrette.
Oui, ouais. S'ils sont très bien cuisinés, pourquoi pas, mais bon. Merci, j'allais
à
dire
demain.
Merci que Jack Lang. Non,
non
pas du
non.
tout, non. Merci, Gilles Brochard, pour cette revue de presse. On se retrouve demain. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette édition de votre matinale sur YouTube et sur X. Vous pouvez continuer à nous écouter sur rc.fr ou bien sur la bande FM. Je vous le rappelle, on essaie de parler de tout à notre antenne. C'est parfois compliqué, vous le savez, la censure sévit. Et si on reste complètement libre, c'est parce que une partie de nos auditeurs nous soutiennent et ils sont les seuls à financer Radio Courtoisie. Donc rejoignez l'effort et puis ça nous permettra de continuer à traiter l'actualité.
Voilà, il faut bien comprendre que Radio Courtoisie ne vit que grâce à ceux qui l'écoutent et que donc si vous écoutez Radio Courtoisie et que vous ne la soutenez pas encore, eh bien il faut faire un geste en fonction de vos moyens, bien entendu. Vous pouvez vous rendre sans délai sur soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne. Vous verrez, il y a plusieurs formules, des formules mensuelles, des formules annuelles, des formules avec la somme que vous souhaitez. Soutenir.rc.fr et par la même occasion, vous découvrirez le nouveau site internet de Radio Courtoisie que nous sommes en train de mettre en ligne avec des nouvelles fonctions qui arrivent petit à petit. Voilà, rc.fr et soutenir.rc.fr.
Ouais, tout de suite, on retrouve Emmanuel Darle. On parle de la censure abusive au sein de l'Union européenne avec le Congrès américain qui va peut-être condamner nos dirigeants européens.
Ligne droite. Debout les Français.
Et on poursuit avec Emmanuel Darle, enseignante chercheuse à l'université spécialisée en modélisation et en simulation informatique. Auteur de IA Illusion d'avenir, les dangers de l'intelligence artificielle. Bonjour et merci d'être avec nous, Emmanuel Darle.
Bonjour à toute l'équipe de Ligne Droite.
Alors, on vous reçoit pour parler de cette nouvelle menace de la part des États-Unis, bien que ça fasse quand même quelques semaines, voire mois, qu'on en entend déjà parler, mais ça semblerait se concrétiser. Washington qui envisage des mesures pour contrer ce qu'ils estiment être une véritable censure européenne. Voilà, et donc on voulait discuter de ça avec vous, Emmanuel Darles, parce que c'est le genre de dossier que vous suivez de près, donc notamment les dérives de l'Union européenne concernant cette censure sur les réseaux sociaux et donc sur tout un tas de plateformes américaines. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire si effectivement, et donc je pense que la réponse sera oui, vous validez cette impression des États-Unis que l'Union européenne censure ces plateformes et à travers de belles images et la volonté de réguler ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tente réellement en fait de manipuler l'information.
Je pense que chaque citoyen de l'Union européenne pourra répondre par l'affirmative, puisque ce qu'on constate sur l'espace numérique, c'est que finalement certains messages peuvent être portés, d'autres non. Je pense par exemple à la censure de YouTube qui a censuré des millions de vidéos durant l'ère de la pandémie, durant l'ère Covid. Je pense par exemple au discours de Mark Zuckerberg devant justement le Congrès qui a avoué finalement avoir cédé à des pressions. Et donc on est dans un écosystème au niveau de l'Union européenne qui fait tout finalement pour supprimer les voix qui dérangent. Mmh. On peut parler du DSA. Il y a quelques temps, des discussions se sont ouvertes pour rajouter finalement un package autour de l'e-privacy, qui est une directive de l'Union européenne concernant les cookies, les trackers et de la RGPD, qui s'appelle donc ce package, s'appelle le Digital Omnibus Package, qui va permettre finalement aux algorithmes de se nourrir des données utilisateurs, mais à des fins de censure. Aujourd'hui, plus de 90% de la censure se fait avec l'intelligence artificielle.
Oui. Alors, on a une automatisation de cette censure et ça montre bien la volonté probablement de nos dirigeants de la généraliser. Encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est que le mot censure est rarement utilisé. On parle de modération, de régulation. Les États-Unis, eux, ils parlent d'une campagne européenne systématique pour influencer la liberté d'expression à échelle mondiale. Donc, on voit que le phénomène s'étend et aujourd'hui, de moins en moins de personnalités sont dupes. On a, comme vous le rappelez, des chefs d'entreprise comme Mark Zuckerberg qui l'affirment. On a des dirigeants américains, donc européens aussi bien évidemment, mais même de outre-Atlantique qui viennent jusqu'en Europe comme J.D. Vance nous alerter sur ce genre de dérive. Et on a la sensation aujourd'hui que nos dirigeants européens justement ne se sentent pas réellement inquiétés par cette prise de conscience, se disent pas tiens, bah, du coup, on va peut-être lever le pied et se calmer un peu parce que les manigances commencent à se voir.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a même des forces d'opposition qui jouent pas leur rôle de forces d'opposition dans la mesure en fait où ils restent faibles face finalement à ces directives et face à ces face à ce problème autour de qu'est-ce qui peut être dit, etc. La liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est fondamentale aux États-Unis, elle fait partie du premier amendement de 1791. Elle est pourtant inscrite dans les droits de l'homme hein, de la France, hein, qui l'a définie comme un droit naturel. Donc finalement, on voit que ce droit naturel s'efface au profit d'une espèce de propagande. On alerte, j'ai envie de dire, on agite les drapeaux autour de la haine en ligne, autour de la désinformation. Mais qu'est-ce que c'est que la désinformation? Est-ce que la désinformation consiste finalement à dire des vérités peut-être trop tôt dans un espace numérique, ou est-ce que au contraire, quand vous dites que par exemple les vaccins sont sûrs et efficaces, est-ce que ça c'est pas plutôt de la désinformation? Je pense notamment à tous ceux qui, dès 2020, disaient « Mais non, l'histoire du pangolin et de la chauve-souris, ça tient pas la route. » Et on les a traités de désinformateurs, alors que finalement, 3 ans, 4 ans plus tard, ça s'est avéré être une vérité. Donc, je pense que déjà, si on ne définit pas réellement les concepts, et si on ne sait pas non plus, à un moment donné, le droit à l'erreur, il existe. Hein, tout le monde a le droit de se tromper. Mais pour autant, chacun a le droit de s'exprimer. Et cette Union européenne devient en fait une dictature à ciel ouvert. Et je crois que J.D. Vance l'a très très bien mentionné, a très bien alerté les citoyens européens, les 450 millions de citoyens. On est face à une commission européenne avec des commissaires non élus, une présidente non élue par les citoyens qui fixe les règles du jeu et finalement, on n'a pas notre mot à dire. Je ne sais pas comment s'appelle ce système, à part finalement le définir comme étant une dictature. Il faut appeler un chat un chat. Et dans une dictature, effectivement, les personnes ne sont pas libres de s'exprimer, ne sont pas libres de porter leurs opinions parce que ben, ça peut être assimilé à de la désinformation, de la haine, ça dépend. Par contre, en fait, si on dit Ursula von der Leyen est magnifique, etc., là, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Donc, voilà.
Ouais. C'est vrai que ce qui est pointé du doigt, c'est qu'encore une fois, vous le rappelez bien, ce système de régulation, il devient extrêmement, et il est depuis le début en réalité, extrêmement opaque. C'est-à-dire que on nous explique effectivement qu'il y a cette volonté de réguler, de modérer, et en même temps, on découvre tous les mois de nouvelles dispositions, de nouvelles réglementations, et ça va toujours un peu plus loin. On ne sait pas vraiment où ça va s'arrêter. Et donc, il y a des différents rapports qui sont sortis sur la façon dont était appliqué ce Digital Service Act en Union européenne. Et de façon évidente et qu'on ne peut pas contester, on réalise qu'effectivement, les sujets les plus visés ne sont pas des sujets comme la pédophilie ou autre, mais des sujets comme la gestion du Covid, les flux migratoires, les questions de genre, la critique du système politique en place. Et donc on voit qu'en réalité, ce DSA, c'est devenu, au-delà d'un outil pour protéger les populations européennes, plus un outil politique. Et on a cette frontière entre l'outil politique et le rôle de nos instances de nous protéger aussi, qui s'est complètement dissoute.
Tout à fait, c'est un outil de propagande. Un outil de propagande pour servir en fait une idéologie, le wokisme par exemple, qui en fait partie. Hein. Là, on a le DSA qui est déjà, on va dire, ce qui est alarmant, mais ce qui nous attend l'est encore plus. Avec le Digital Omnibus Package, vous pourrez parfaitement récupérer toutes les données des utilisateurs, leurs tweets, tout le contenu de leur compte, etc., pour aller alimenter les IA et vraiment les profiler de façon très fine. C'est-à-dire qu'on saura exactement qui a le droit de s'exprimer ou pas. On va faire deux catégories de citoyens, et c'est d'ailleurs, c'est vraiment limite le projet hein, de ce Digital Omnibus, c'est de faire deux catégories de citoyens. Ceux qui pensent bien ont le droit d'avoir un compte en ligne, ont le droit de faire des vidéos sur les grandes plateformes. Et ceux qui pensent, on va dire, mal, parce qu'ils pensent différemment, en fait, n'ont pas du tout le droit à la parole. Donc, le digital va un cran plus haut, la censure va toujours un cran plus haut, et les pouvoirs politiques qui sont en place, qui devraient vraiment s'opposer très fermement, parce que s'indigner sur Twitter, tout le monde peut le faire. Mmh. Après, on les a pas élus pour aller s'indigner sur Twitter, on les a élus aussi pour aller se confronter face à la Commission européenne, face à sa présidente. Et pour autant, ça, c'est pas fait. Voilà. Donc finalement, on n'a pas de force d'opposition qui jouent réellement leur rôle au sein du Parlement européen. La Commission est parfaitement en roue libre. Je ne trahirai pas aucune note de confidentialité en disant que, par exemple, aujourd'hui, dans les projets européens, il s'agit avant tout de savoir si le genre est bien représenté, il y a toute une idéologie wokiste qui existe au sein de tous les appels à projets de recherche scientifique de l'Union européenne. Donc, on voit bien que c'est pour transmettre une idéologie et le contribuable, le simple citoyen, n'est absolument pas consulté sur ces questions.
Alors, il y a une opposition qui est en train de se former et comme vous le dites, on regrette qu'elle ne soit que peu européenne. On a une fois de plus presque besoin des États-Unis et c'est regrettable et en même temps très humiliant, je pense, pour les Européens de se faire rappeler à l'ordre de la sorte. Donc, le Congrès américain qui est en train de s'interroger sur les sanctions qu'il pourrait voter à l'encontre de certains dirigeants européens, donc notamment la suppression de certains visas. Mais derrière ces mesures, il y a aussi la volonté de demander aux dirigeants européens d'assumer toutes ces mesures, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi une certaine hypocrisie reportée sur les dirigeants de ces entreprises américaines qui sont à la tête des différentes entreprises des réseaux sociaux, d'information, etc., la responsabilité de censurer leurs utilisateurs pour ne pas avoir à répondre de cette censure. Et aujourd'hui, une fois de plus, la vérité éclate au grand jour et on a les Américains qui nous disent en fait stop, si vous voulez tomber en dictature, tombez-y tout seul et surtout portez la responsabilité de vos actes.
Tout à fait, parce que en fait, les algorithmes de censure ne peuvent pas en fait s'adapter par espace, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont communs, donc ils sont communs aux 4 milliards d'utilisateurs des réseaux, enfin de l'ensemble de ces plateformes. On parle de 6% du CA mondial, ce qui est cité par exemple dans l'article sur Epoch Times. Donc c'est en fait 15 milliards pour Google. Donc là, on est vraiment sur une arme de dissuasion massive. C'est énorme. Et donc, en fait, on voit très, très bien que l'Union européenne avance. Elle avance toujours plus fort, toujours plus vite pour aller censurer tous les utilisateurs, qu'ils soient européens ou même américains. Parce que je prends par exemple le cas du MEA qui a eu lieu au Parlement européen, le Make Europe Else Again, donc porté par donc la mouvance hein, MAA, au sujet de voilà par Robert Jr. Kennedy, donc le ministre de la Santé de Donald Trump. Ça a été très très mal vu et il y a eu malheureusement des censures de certaines vidéos, etc., parce que ça ne plaisait pas finalement au pouvoir en place. Donc en fait, dire les choses dans cette Union européenne, déjà dire les choses en France et plus largement dans cette Union européenne, ça devient impossible. Que nous reste-t-il, nous, en tant que citoyens? Eh bien, comme je l'ai dit, en fait, sur d'autres médias, quand j'ai sorti mon livre, je pense qu'on a justement des espaces numériques de résistance encore à inventer. Je pense qu'il faut trouver des solutions. Quand on nous agite le drapeau en nous disant « on va vous interdire les VPN, on va vous obliger à mettre votre carte d'identité pour aller tweeter, on va aller, voilà, à chaque fois resserrer les taux », ben, je pense qu'à un moment donné, il est de la responsabilité de chacun de trouver des solutions pérennes pour lutter justement contre ces manœuvres. Mmh. Voilà. Et je pense que c'est ça le challenge finalement de la nouvelle ère, de cette ère-là autour de ce fonctionnement tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience collective pour au contraire pour sortir de cette Union européenne.
Oui. L'avantage, c'est qu'effectivement, on a quand même de plus en plus de citoyens européens qui réalisent quelles sont toutes ces dérives, qu'elles existent bel et bien, que c'est pas un fantasme de complotistes ou bien des tentatives d'ingérence et de déstabilisation étrangère, hein, parce que c'est souvent ce que répond Bruxelles. Et donc, ils font aussi preuve de beaucoup de créativité pour trouver des façons parallèles de s'informer, de faire circuler cette information et puis voilà, de conserver un peu de liberté. Merci beaucoup Emmanuel Darle d'avoir été avec nous ce matin. On vous reçoit régulièrement à notre antenne, donc on ne manquera pas de vous réinviter prochainement. Et puis l'avantage, c'est que généralement l'actualité nous offre beaucoup de sujets. Donc je vous dis à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Si vous voulez qu'on puisse continuer à vous informer, eh bien il faut s'engager avec la radio et auprès des 2% d'auditeurs seulement qui donnent déjà à notre antenne.
Agrandissez la déjà grande famille de Radio Courtoisie qui a besoin encore de s'agrandir pour plus de moyens et plus de reportages et d'indépendance. Alors s'il vous plaît, faites un geste sur soutenir.rc.fr et profitez-en pour découvrir notre nouveau site internet qui est arrivé en fin de semaine dernière. Merci d'avance.
Merci d'avance, chers auditeurs. Quel sera le programme du jour?
Restez bien avec nous dans un instant. Le Français en partage, dirigé en direct par Albert Salon. À midi, le libre journal de l'école de Florence Leroux et Hervé Roland pour Manifeste pour une autre jeunesse. Le 17h30 aujourd'hui, c'est avec Pierre-Alexandre Bouclet pour un entretien exclusif et en direct avec Marion Maréchal, puis le rendez-vous de la réinformation. 19h30, le libre journal du lundi soir, dirigé par Richard Decaize. 21h30, la soirée musicale aujourd'hui en compagnie de Stéphane qui nous propose des symphonies de Carl Philipp Emmanuel Bach.
Un beau programme. Et nous, on se retrouve demain. C'est Alexandre de Galzin qui me remplace exceptionnellement. Aura un bel entretien avec Bruno Gollnisch, notamment. Donc, soyez au rendez-vous. 7h. Bonne journée, chers auditeurs.
Bonne journée. À demain.